Bonjour à tous, aujourd'hui on finit cette série sur les erreurs des élèves en astrologie et on va parler d'une erreur toute simple qui est reliée à une autre. Donc il y a, on va dire, deux erreurs dans ce podcast. La première erreur, et c'est logique, c'est normal, c'est naturel, c'est le réflexe de tous, c'est de se jeter sur une planète et de l'essorer, de l'épuiser jusqu'à ce qu'on en ait fait le tour. Sauf que, effectivement, on peut commencer l'interprétation avec la Lune, avec les nœuds, avec l'ascendant, avec le maître de 1, si vous voulez, avec n'importe quelle autre planète, finalement. Mais tout dépend en fait de ce qu'on veut étudier. Mais c'est pas vraiment de l'astrologie. En ce sens que, effectivement, lune en chute, bon, ben, on va parler des émotions. Lune en chute, on peut éventuellement parler de la mer. Mais si on veut vraiment faire quelque chose de synthétique, quelque chose de complet, quelque chose finalement qui respecte vraiment l'art de l'astrologie, on doit justement prendre en compte toutes les planètes. Parce que les planètes entre elles communiquent, les planètes ont un langage, c'est pour ça qu'on dit l'astrologie, le langage des astres. Et effectivement, des planètes vont empêcher, par exemple, cette lune en chute peut-être, d'être véritablement en chute. C'est-à-dire qu'effectivement, la lune peut être en chute, mais il peut très bien y avoir Jupiter dans la quatrième maison de la lune. La lune en chute peut très bien être en Vargotama dans le D9. Cette lune peut très bien être entourée de deux bénéfiques, et là, ça va vraiment changer la donne. Le dispositeur peut très bien être Mars qui est en Bélier ou qui est en Capricorne. Ça peut vraiment changer la donne. Donc, c'est important de regarder plusieurs facteurs célestes. Et après avoir regardé plusieurs facteurs célestes, eh bien là, on synthétise. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer par, on va dire que le thème, c'est comme un grand nœud, c'est comme un lacet. Eh bien évidemment, on va tirer sur la languette pour que ça se défasse. Et donc, évidemment, on va commencer par une planète. On peut très bien commencer par la lune dans un akshatra, la lune dans une maison, la lune dans un signe, évidemment. Et ensuite, on se dira, bah, lune en Sagittaire. La personne va chercher à améliorer son mode de vie, va chercher à s'ouvrir en termes socio-professionnels et également, pourquoi pas, en termes spirituels, au niveau de la connaissance, au niveau des voyages.
Pas de religieuse et spirituelle.
Pardon, au niveau des voyages, etc. Et donc, c'est l'idée que avec les autres astres, on va chercher tout simplement si ce qu'on vient de dire se révèle juste, c'est-à-dire en fait est amplifié, dans ce cas-là, ça va être extrêmement marquant chez le natif, ou alors au contraire, si c'est quelque chose qui est empêché. Et c'est ça tout l'enjeu. Si évidemment il y a cette lune est mal aspectée ici en Sagittaire, et que Jupiter qui régit le Sagittaire est en chute en Capricorne, là il y aura des difficultés pour la connaissance, pour voyager, pour plein de choses. Et tout ce que l'on vient de dire sera une préoccupation, mais sera difficile peut-être pour le natif. Donc, on va pouvoir orienter, conseiller et dire au natif ce qu'on voit. Et ensuite lui proposer des pistes de redirection. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si simplement on dit, ben voilà, lune en Sagittaire, non, on peut vraiment passer à côté de la pertinence en fait de l'interprétation si on fait ça. Donc c'est vraiment cette invitation à regarder l'ensemble des facteurs, tout ce qui est relié à ce que l'on étudie. On l'a vu dans l'audio précédent, quand on veut étudier un domaine, on étudie pas seulement un seul aspect, on étudie toujours au minimum trois aspects. Le caraka, le maître de la maison et la maison qu'on étudie. Donc ça c'est important déjà de le comprendre. Et ensuite, de voir tous les aspects, de ne pas oublier d'aspects, de ne pas oublier d'aller creuser. Si on a un doute ou si on veut même aller encore plus en profondeur, On se sert des techniques que l'on connaît, on se sert des divisions zodiacales, on se sert de l'Ashtakavarga, on se sert des périodes, des sous-périodes, on se sert de tout ce que l'on connaît, des Shatbala, donc des forces planétaires. On peut se servir de tout ça. On a tout ça à disposition, donc il faut s'en servir, même si évidemment au début je recommande de maîtriser le D1. Alors, le maîtrise-t-on un jour, je ne sais pas, mais c'est cette idée quand même d'être à l'aise avec ce petit carré, ces 9 planètes et cet ascendant. Et une fois qu'on est à l'aise avec ça, on peut déjà aller loin. Donc je vous invite vraiment à être à l'aise avec le système de Parashara, donc qui est celui que j'enseigne. Et puis, une fois que vous êtes à l'aise avec Parashara, vous allez un peu plus loin dans les divisions, dans tout ce que je viens d'évoquer, donc toutes les techniques pour permettre une nouvelle précision, pour permettre d'affiner votre étude, et puis surtout pour permettre de trancher les différents domaines. Parce qu'effectivement, la maison 5 peut très bien régir les enfants, mais aussi la pratique spirituelle, aussi les flirts, les amants, etc. Ça peut régir plusieurs choses. La maison 7 peut très bien régir les partenaires de business, mais aussi le conjoint. Donc tout dépend, ou les autres de manière globale. Donc tout dépend, effectivement, ce que l'on veut étudier. Et lorsqu'on étudie une maison, c'est bien de trancher avec les divisions, par exemple. Voilà, donc déjà, ça c'est un travail qu'on peut faire, c'est-à-dire maîtriser le D1 avec le système de Parashara. Donc si vous avez 36 000 paradoxes dans le D1, et c'est ça la deuxième erreur, ça ne va pas être de faire une cote mal taillée, comme dit Denis Labouré. Ça va être de prioriser. Il y a des manières pour prioriser, Moula Trikona de préférence lorsqu'une planète régit une maison. Par exemple, si Saturne régit la 8 et la 7, il sera meilleur en maison 8, parce que c'est son Moula Trikona, même si la 8 est influencée par la 7, donc Saturne restera plutôt neutre, même si de base il est maléfique, donc il sera maléfique pour les ascendants cancer. Supposer que Saturne soit, donc ascendant taureau, Saturne soit maître de 9 et de 10, la maison 10 devient neutre, puisque les maisons Kendra deviennent neutres, et la maison 9 est extrêmement bénéfique. Donc ici, Saturne restera toujours maléfique au niveau de ses caractères naturels, c'est-à-dire va freiner les choses, va retarder les choses, va séparer des choses, mais apportera également des bonnes choses, protégera quand même globalement ce qu'il touche. Donc ça, c'est intéressant de comprendre tout cela. Et ça va vraiment permettre de prioriser. C'est vraiment ce que j'appelle la méthode de l'entonnoir. C'est-à-dire, on commence large, ensuite on regarde les différents facteurs célestes, ce qu'ils nous disent. Est-ce que ça va dans le même sens? C'est facile. Est-ce que, alors, pour le meilleur ou pour le pire? Et sinon, si c'est effectivement un astre est favorisé, un autre ne l'est pas, eh bien on priorise. On priorise toujours sur le maître de la maison. Ensuite sur la maison et ensuite sur le significateur. Voilà. Et puis, évidemment, il y a un petit peu d'intuition à avoir aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est à force de pratique, c'est à force de spiritualité, donc à force de méditer, à force de regarder le ciel, de vous connecter à la symbolique, de connaître, d'apprendre tout simplement la symbolique, que vous allez être capable de trancher, de prioriser. Parce que, évidemment, les Indiens traditionnels, ils apprennent des centaines et des centaines, voire des milliers de yoga, donc des combinaisons, qui disent tout et son contraire, et ils sont capables de prioriser, de voir celui qui est prioritaire sur le reste. Donc c'est ça également qui va être qui va vraiment faire partie de votre travail d'étudiant en astrologie et d'astrologue au final. C'est vraiment cette idée de prioriser, cette idée de faire émerger du sens à travers les planètes qui sont les plus marquantes, les plus évidentes. Ça, c'est le grand travail de l'astrologue, c'est la grande difficulté de l'astrologie, c'est-à-dire prioriser et jauger du degré d'affliction ou du degré, au contraire, de bénédiction d'un domaine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Demain, on entamera une nouvelle série sur la Maison 1. Donc, soyez présents. Belle étude à tous. À demain.